Pluriel. Une émission réalisée et animée par Roland Bensoussan.
Chers amis, bonsoir. Roland Bentoussin au micro de Judaïsme Pluriel pour une heure à passer en votre compagnie, comme tous les mercredis soirs, de 20h à 21h. Ce soir, Rosemary Cauchy, l'art comme témoignage. Avec Judith Martin-Razi.
Toute cette mémoire est là. Elle me force chaque jour à faire le choix entre vivre ou mourir. Vivre ou mourir. Pour ne pas laisser mourir cette mémoire, je fais le choix de vivre et de dire ce que nous avons vécu dans la Shoah. 15 juillet 2000.
Judith Martin-Razi, notre invitée de ce soir, vient de vous lire quelques lignes de Rosemary Cauchy. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir Judith et merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir et bonsoir aussi à Olivier. Donc Judith, tu vas nous parler de Rosemary Cauchy, de sa vie terrible, de son œuvre et de son témoignage. Alors Judith, tu es venue plusieurs fois à ce micro de Judaïsme Pluriel. Rappelez-vous l'album d'Auschwitz, Christian Bolsansky et son livre Kaddish, La valise mexicaine, Maya Surdute, une balade littéraire. Tu es artiste photographe et tu as exposé de nombreuses fois, notamment à Paris, à New York. Tu es aussi féministe engagée. Et tu as réalisé sur ce thème beaucoup d'expositions, et j'en cite deux, Militante en 2001 et Portrait d'elle en 2007, entre autres. Tu es très engagé aussi dans le collectif 13 Droits des Femmes, et là tu milites beaucoup. Enfin, tu as une de tes passions, c'est la lecture. Et à ce micro, tu nous as lu pas mal de poèmes, et je pense en particulier au mur de la rage de
Nikit Safal.
Très bien. Bien, alors ce soir, tu vas nous parler de Rosemary Cauchy. Je veux dire tout de suite que pour la préparation de cette émission, je me suis inspiré de l'entretien de Jeannine Rivet avec Rosemary Cauchy et des livres que tu as bien voulu me prêter, Judith, et je t'en remercie. Alors, puisque nous allons parler de Rosemary Cauchy, qui est Rosemary Cauchy?
Alors avant tout, je dis bonsoir à nos auditrices et à nos auditeurs. Et pour répondre à ta question, je vais faire d'abord une chronologie. Rosemary Cauchy, il est né le 5 mars 1939, près de Recklinghausen, c'est en Allemagne. Elle meurt le 12e jour du 12e mois 2007, le jour de Hanouka, à la fête des Lumières, en 5768.
Et elle avait 68 ans.
Elle avait 68 ans et elle repose au cimetière de Croton en Hudson où elle résida avec son mari. C'est aux USA. Alors Rosemary est née Rosemary Inge Cauchy et comme tu l'as dit précédemment, elle a eu une vie particulièrement dure, difficile, éprouvante dès son jeune âge. Elle est déportée en 1942 avec ses parents, dès l'âge de 3 ans, au camp de Traunstein, près de Dachau. Là, toute la famille est classée Untermensch, c'est-à-dire le sous-homme, hein, le peuple inférieur. Mais la famille reste quand même unie dans ce camp pendant un an, jusqu'au moment où le père est obligé de prendre l'uniforme allemand pour se battre. Le père a été récupéré par l'armée allemande parce qu'il n'était pas juif. Donc il est obligé de se battre et de divorcer avec son épouse. Rosemary, à ce moment-là, est envoyée au camp d'Ottohausen, qui est un sous-camp de Natzweil, le Struthof, près de Sarrebruck. Là, elle avait 4 ans. Elle y restera 3 années et, comme tous les enfants dans ce camp, elle travaillait sans relâche dans les champs, aux écuries, partout où il y avait besoin de petites mains. Ce camp a été délivré par les Anglais et aussi un régiment de Noirs américains. Ils y ont trouvé beaucoup de morts et la plupart des survivants ne pouvaient plus marcher.
Elle avait alors 7 ans.
Elle avait 7 ans. Elle raconte qu'elle n'a aucun souvenir de ce qui a pu lui arriver de 6 à 10 ans, seulement d'être dans un hôpital avec la sensation de draps blancs et frais et celle d'être lavée. Quant à sa mère, elle meurt, elle a 35 ans. À 10 ans, elle est rendue à ses grands-parents qui, eux, sont revenus des camps en 1945 et ils étaient joailliers avant la guerre. Ils ont retrouvé absolument tout leur atelier et tout ce qu'ils avaient complètement détruit et ça datait de la nuit de cristal où tout avait été saccagé et pillé.
En 38.
De 10 à 11 ans, elle s'occupe de sa grand-mère qui est paralysée. Et à la mort de celle-ci, en 1953, elle a 14 ans, hein, elle est placée dans un orphelinat catholique où elle y travaille comme domestique, 15 heures par jour, sans rémunération, parmi 200 enfants handicapés mentaux, tous récupérés dans les camps. Il fallait laver à la main le linge dans d'immenses lavoirs et raccommoder pour toute la ville de Münster. Et là, il y avait des enfants de 10 à 15 ans devant des tables de 7 heures du matin à 7 heures du soir à travailler sans relâche.
Alors, où elle a été donc placée, est-ce qu'elle a suivi un cursus scolaire ?
Elle n'a eu aucun cursus scolaire, à part celui d'avoir un apprentissage. Évidemment.
Un apprentissage pratique.
Pratique, et oui, oui. De ménagère. Et quel apprentissage. Lorsqu'elle dit, à un moment donné, on lui demande ce qu'elle voudrait être, elle dit qu'elle voudrait être peintre. Et là, on lui répond que c'est un métier de prostituée et que de toute façon, personne ne paierait ses études. Elle en tombe gravement malade. Elle maigrit énormément. Et ça, pendant 3 ans, elle devient pratiquement autiste. Les sœurs qui commence à avoir quand même un peu de compassion, l'autorise à prendre des cours d'aquarelle avec Sœur Bénédicta. Et là, elle se souvient plus de ce qu'elle peignait, mais seulement du contact avec la peinture.
C'était déjà ses premiers contacts avec la peinture. Mais alors, combien de temps est-elle restée à l'orphelinat ?
Alors, je ne sais pas exactement, mais je crois qu'elle en est sortie à l'âge de 20 ans.
Oui, 20 ans, donc en 59.
Hein, oui, voilà. À peu près.
Alors, après cet orphelinat, qu'est-ce qu'elle fait quand elle sort de l'orphelinat ?
Elle est renvoyée, donc, et elle retourne chez son grand-père, qui, lui, est âgé de 80 ans. Et là, il lui dit qu'il veut qu'elle quitte absolument l'Allemagne et qu'elle doit aller en Suisse. Mais surtout, il veut qu'elle raconte ce qui s'est passé, ce qu'elle a vu. Ça, c'est vraiment le message qu'il lui donne et le bagage qu'il lui donne.
Et alors, est-ce qu'elle va le faire ?
Elle va le faire, mais beaucoup plus tard. Alors... Ensuite, elle va donc à Genève, où là, elle est engagée comme bonne à tout faire dans une famille de Suisses allemands, où là encore, elle est carrément exploitée. Elle a une toute petite paye. Elle travaille tous les jours de 6 heures du matin jusqu'à 22 heures. Et ce n'est qu'après qu'elle va dessiner jusqu'à 1h du matin. Et les moindres moments de libre qu'elle a, elle va dans les musées et elle regarde tous les livres d'art pour apprendre, pour se documenter, pour être vraiment... Elle veut être peintre. Hein,
à t'écouter, je suis en train de faire un petit compte. 6h du matin à 22h, elle travaille. De 22h à 1h du matin, elle fait de la peinture. Elle dort combien ? 5 nuits ?
Oui, elle dort très peu.
C'est que vraiment, elle avait une motivation. Hein ?
Absolument.
Bien. Alors... Comment est-elle venue à la tapisserie, puisque c'est par là qu'elle va commencer son œuvre artistique ?
Alors, elle a quand même une petite chance, là, tout d'un coup. C'est qu'elle a de nouveaux patrons, les Rosenbaum, qui l'emploient qu'à mi-temps, mais lui donnent le même salaire qu'un plein temps. Et là, elle va s'inscrire dans une école d'art.
Ah, oui.
Et là, elle apprend, entre autres, la tapisserie. Et en 1965... Elle est diplômée du certificat fédéral de capacité, avec les honneurs du jury, bien sûr, par l'École des arts décoratifs de Genève.
Mmh.
C'est ainsi qu'elle est venue à la tapisserie.
Et cette tapisserie, est-ce que tu peux, puisqu'elle a eu un très grand succès, puisqu'il y a des tapisseries qui sont exposées aussi, tu nous en parleras après, est-ce que tu peux nous parler de ces tapisseries, du style, de la façon dont elle fait les choses ?
Rosemary donc, se fait connaître pratiquement mondialement dans les années 70, tout d'abord en Europe, pour la création de ses textiles. Elle dessinait aussi des tissus. Et tout particulièrement pour les tapisseries. C'est grâce d'ailleurs à ces tapisseries qu'elle va obtenir une bourse d'études au McDowell Colony Petersboro, dans le New Hampshire. Et ça va changer toute sa vie d'ailleurs, cette bourse. Parce qu'elle y rencontre son second mari, qui lui est un musicien, qui s'appelle Louis Pelosi, qui est toujours vivant. Qui, lui, venait juste d'obtenir son diplôme supérieur à la Manhattan School of Music. Et là aussi, ce couple va devenir très important.
Je crois qu'il va devenir, lui, conservateur de musée, non ? Je crois, je ne suis pas sûr.
Non, il s'occupe de l'œuvre, évidemment, de Rosemary,
d'accord.
Bien entendu. On l'a dit, elle était extrêmement connue pour ses tapisseries et ce qui lui a permis d'ailleurs de venir entre les États-Unis et la Suisse. Elle faisait sans arrêt le va-et-vient avec son mari parce qu'on lui demandait énormément de tapisseries. Tellement par moments qu'elle ne pouvait pas fournir trop et elle devait travailler énormément au point que ses mains étaient abîmées. Elle a eu 4 opérations d'ailleurs à ce sujet, tellement elle devait travailler.
Elle faisait de très grandes tapisseries, j'ai vu qu'il y en avait une qui fait 6,50 m.
Oui, elle faisait de tapisseries très très grandes, avec des couleurs très très vives, avec du rouge, de l'orange, du jaune, du vert. Tout était mélangé, mis ensemble. Il y avait même des personnes qui trouvaient que c'était trop agressif. Elle disait qu'elle voulait partager le plaisir de la couleur, le plaisir de la découverte de ce qu'elle a appelé le monde du silence, ce qui n'a rien à voir avec Cousteau d'ailleurs, parce que le monde minéral ou végétal, c'est un monde qui ne peut pas s'exprimer par des mots. Voilà ce qu'elle disait.
Bien, on va faire une petite pause musicale, si vous voulez bien.
Vilified, crucified in the human frame, A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, Nady, Nady, I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker.
Vous êtes à l'écoute de Judaïsme Pluriel et je vous rappelle que ce soir, nous parlons de Rosemary Cauchy avec Judith Martin-Razi. Alors Judith, on a parlé de la fabrication de ces tapisseries. On a dit qu'elle était devenue une grande artiste de la tapisserie, mais à un moment de sa vie, Rosemary Cauchy s'est mise à faire, entre guillemets, de petits dessins à l'encre de Chine sur du papier. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cela est arrivé?
C'est à McDowell qu'elle a eu pour la première fois l'opportunité d'abandonner la planification complexe et la construction laborieuse d'une composition tissée au moment où justement elle était submergée par des images d'une imminence irrésistible. Et elle s'est mise à créer de mémoire des milliers de portraits remarquablement expressifs en retrouvant les expressions de ses compagnons d'infortune rencontrés des décennies auparavant, en leur redonnant vie et en transmettant la douloureuse expérience vécue ensemble, expérience qui pour beaucoup se termina par la mort dans les camps de concentration allemands. Sa discipline et son instinct d'artistes, d'investigations, l'amenèrent à accroître les défis qu'elle se donnait, comme on peut le voir dans les deux séries qu'elle a réalisées, Je vous tisse un linceul, mais L'homme debout aussi. L'objet de ses dessins répond certes à un profond désir de réaffirmer sa propre expérience, pas seulement individuelle, mais en tant que membre d'un groupe diffamé. Volonté aussi de rendre leur dignité aux personnes qui en ont été dépouillées et de montrer, en la condamnant, la profondeur et l'étendue de la perte subie.
Je cite Rosemary Cauchy. J'ai commencé ces dessins en 1975. C'était un besoin de plus en plus obsédant. Même sur mes tapisseries apparaissaient des têtes de camp. Je ne pouvais pas cependant rendre sur ces textiles l'intensité de ce besoin. J'ai donc décidé de prendre de l'encre et de les dessiner. Alors, parmi tous ces dessins, on parle de celui où elle dit « Je tisse un linceul ». Judith, c'est très important. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'elle a voulu dire ?
Alors, « Je vous tisse un linceul », c'est donc toute cette série qu'elle a dessinée. Ces dessins, ils incarnent, d'un point de vue formel, hein, la rigueur artistique à laquelle elle se tenait. Et elle commence à remplir le premier cahier dans les années 80. Cahier qu'elle va déchirer feuille à feuille et où elle donnera ses dessins. Elle a toujours eu la figure comme centre d'intérêt dans les décennies au cours desquelles elle dessine « Je vous tisse un linceul ». Et avant déjà 1970, elle avait réalisé des images figuratives dans le paysage en lien avec les injustices politiques et sociales de l'époque pour protester contre l'oppression et les violations des droits de l'homme dans le monde entier. Par exemple, elle a réalisé un dessin « 13 000 Indiens au Guatemala » dans le cadre d'une exposition « Hommage au peuple d'El Salvador ». Et elle remplissait des carnets et, comme je vous le disais, ensuite les feuilles étaient détachées par elle ou par son mari et données. Pour la série « Je vous tisse un linceul », sa méthode avait des fondements relativement arbitraires. Elle faisait confiance en ses instincts et les a suivis. Sa direction étant devenue plus claire, et après avoir réalisé quelques milliers de dessins, incluant sur leur verso des références aux internements dans ces camps de concentration, elle prépara une déclaration d'intention pour « Je vous tisse un linceul » et exigea qu'elle soit incluse lorsque son œuvre a été présentée dans des expositions. Je vais vous lire cette intention. Les dessins que je fais chaque jour s'appellent « Je vous tisse un linceul ». C'est un enterrement que j'offre à ceux que j'ai vus mourir dans les camps quand j'ai été déportée en 1942, 1943, 1944, 1945 et dans le camp de déplacement de 1949 à 1951. Puis, à la suite de ce texte, elle écrit le rituel de l'enterrement juif d'une façon très très détaillée, à la fois le rituel pour les femmes, le rituel pour les hommes, qui doit laver un homme, une femme, comment on va procéder lorsque l'on est ashkénaze ou séfarade. Pour elle, c'était extrêmement important de donner toutes ces précisions. Et elle poursuit, elle termine son texte en disant « Peut-être, comprenez-vous maintenant pourquoi je fais des dessins, des sculptures et des peintures ? C'est pour donner un enterrement digne et respectueux aux morts, et parfois encore aux vivants, que j'ai vu enlever avec des bulldozers et jeter dans un ravin ou un trou, et qu'on recouvrait de chaux vives. Le linceul, c'est le trait qui entoure chacun de mes personnages pour les enterrer dignement. Si vous voulez en savoir plus, il faut visiter les camps de concentration. Il y en a eu 10 000. Et voilà, j'y étais. J'ai survécu à deux de ces camps. Chaque jour, je continue d'enterrer les victimes des camps dans un silence total. »
Elle signe ce papier de son nom, Rosemary Inge Cauchy, 23 novembre 1999. J'invite les auditeurs et les éditrices à aller sur le site de Radio JM pour aller au site de Judaïsme Pluriel. Vous verrez quelques dessins et aussi au verso ce qui est y inscrivait.
Alors, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que pour aller sur le site, vous tapez sur Google Judaïsme Pluriel en un seul mot et tout collé. Et puis là, vous allez tomber sur la page de garde et puis vous vous laissez suivre. Vous allez sur programme et vous allez voir, il y a écrit texte et photos. Vous allez là et vous allez voir les photos que Judith a bien voulu vous montrer.
Photos des dessins, bien sûr.
Oui, dessins, bien sûr.
La plupart des dessins de la série Je vous tisse un linceul donc retranscrivent des moments d'interaction avec des personnes qui, dans sa mémoire, mouraient peu de temps après. En général, les images individuelles ne permettent pas l'identification des personnes et beaucoup représentent une fusion des rencontres de sa mémoire, mais avec d'autres, elles pouvaient être très précises. Par exemple, un groupe de sculptures et de dessins se concentre sur un garçon arrivé au camp de Thousand Saarbrücken pendant que Rosemary y était, et ce garçon s'appelait Oben, ce qui signifie « j'embarquais ». Il était infirme et avait peu de chances de survivre, mais sa présence était si forte que Rosemary et ceux qui ont pu le rencontrer ont été émus par lui. Elle disait combien il était attachant, le regard vif, ouvert. Dans un dessin et une grande sculpture en bois, elle a idéalisé son image, ne faisant aucune mention de son handicap physique. La mémoire de Rosemary est remplie des histoires des détenus qu'elle observait tenter sans succès d'exprimer leur indignation face aux avilissements dont ils étaient victimes dans les camps. Dans un de ses cahiers, elle a intitulé un chapitre « Elsa » qui dépeint une jeune fille de l'orphelinat à Münster qui avait perdu une jambe pendant la guerre et qui résidait et résistait face aux sœurs qui voulaient la faire taire. Il y a l'histoire de Brunhilde, une fille handicapée mentale, gravement traumatisée dans le même orphelinat et qui avait perdu la capacité de parler, sauf en dormant.
Alors, avant de poursuivre, je voudrais qu'on réfléchisse 30 secondes sur ce mot « je vous tisse un linceul » et la façon dont elle a, tu l'as dit d'ailleurs, dont elle a décrit l'enterrement, mais alors dans les
moindres détails, oui.
Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a vu ces cadavres par terre enlevés par des bulldozers qui ont été mis dans des trous et elle a envie, pour chacun d'eux, de retracer tout l'enterrement pour qu'ils aient un enterrement digne. C'est quelque chose de très, très, très fort. Très, très fort.
Et de monumental. Oui. On rappelle qu'il y a 6 millions de Juifs et... Elle se souvient de tous les enfants et toutes les personnes qu'elle essaye de faire. La fin de son œuvre, il y a un peu plus de 15 000 dessins.
15 000 dessins, oui.
C'est énorme, c'est monumental. Énorme.
Et alors on est en train de dire quelque chose qui est terrible. C'est qu'elle est en train de retracer justement la mort de chacun en faisant tout son rituel. Et en même temps, et alors là, elle a très très mal supporté, on nie sa mémoire. Et ça, c'est quelque chose d'important.
Et ça commence très tôt. C'est-à-dire que dans les orphelinats, les expériences des enfants juifs dans les camps ont été niées, pour tous, hein, pas que pour elle, hein, au point de changer leur nom pour d'autres en faisant référence à des saints chrétiens. Et Rosemary est devenue Roswitha Wüsthoff, qui est le nom de jeune fille de sa mère. Et la blessure s'ajoutait aussi à l'insulte de par les punitions douloureuses qui étaient infligées par les sœurs aux enfants qui parlaient des camps, de leur foyer ou de leur famille. Et l'adolescente Rosemary dut à nouveau réprimer son vécu. Elle a dû se taire. En plus des dessins donc je vous disais plus de 12 000 au moment de sa mort, mais elle a réalisé des centaines de peintures, de sculptures et d'œuvres techniques mixtes, comme les compagnons et les ramifications de la Syrie, et ça en commémoration des pertes massives qu'elle a vues en tant que prisonnière des camps. Néanmoins, sa volonté de raconter l'histoire de la Shoah de cette façon rend son témoignage indéniable et fondamental.
Et, oui.
Oui, comme elle l'a écrit dans ses mémoires, les souvenirs de ses expériences en camp de concentration ont été fréquemment récusés tout au long de sa vie. Enfant à l'orphelinat, comme je vous l'ai dit, elle a été punie pour en avoir parlé et on a pu lui dire que c'était le fruit d'une imagination enfantine. Même adulte, elle voyait son histoire également rejetée par ceux à qui elle essayait de se confier.
Et elle dit « Les camps et les nazis ne sont pas de l'esthétique, c'est la vérité. Et pour moi, n'existe que le temps de la mémoire qui me ramène au passé. » C'est donc tout ce que tu viens de dire. Alors, j'ai une question maintenant. Comment exprime-t-elle la souffrance dans ses dessins?
Le plus souvent, les figures apparaissent comme brisées, convulsives ou grotesquement déformées par la contrainte physique, mentale et spirituelle, des épreuves individuelles et collectives que les sujets ont subies. Et les traits, les caractéristiques physiques sont réduits au strict minimum de telle sorte qu'il est souvent difficile de déterminer le sexe et l'âge des personnes représentées. Les corps reflètent la souffrance au travail forcé, la faim, la maladie, les effets du froid et souvent la torture. Les crânes sont rasés, les visages sont hagards et montrent l'épuisement, les ventres gonflés de malnutrition, les mains et les pieds sont enflés. Le visage de chaque individu, le corps et la posture portent les stigmates des abus subis. L'identité de presque tous est inconnue. Elle dit « Je ne peux pas les oublier. C'est une mémoire visuelle. Comme les poètes façonnent les mots, moi, je façonne la figure humaine. Ce que je me rappelle, ce sont des visages, des mains, des regards, des expressions, plein de détails de la vie que je n'aurais pas pu exprimer à 20 ans. Le côté homme, femme n'existe pas. C'est un humain tout court, et ce qui m'intéresse, c'est sa motivation. Parmi ses dessins, elle rajoute « Je garde seulement l'essence de la personne, en tout cas, tous les êtres humains ont en commun de naissance, de décès et de maladie. Et je vais directement à l'essentiel parce que je sais ce qui nous attend. »
échecs ou des déroutes, on pourra toujours s'adresser aussi aux cieux. M'en veux de la vie. Longtemps, 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 longtemps.
Vous êtes toujours à l'émission de Judaïsme pluriel, en tout cas on l'espère. Et je vous rappelle que ce soir, avec Judith Martin-Razi, nous parlons de Rosemary Cauchy, l'art comme témoignage. Parmi ses dessins, elle dit « Je garde seulement l'essence de la personne. En tout cas, tous les êtres humains ont en commun de naissance, de décès et de maladie. Et je vais directement à l'essentiel parce que je sais ce qui nous attend. »
Elle se souvenait parfaitement du gonflement des mains et des pieds, le ventre distendu et les grands yeux des personnes qu'elle voyait autour d'elle dans les camps. La réalité était ainsi son point de départ pour ces types de figures pour la Syrie. Témoin dès l'enfance d'une succession de souffrances apparemment sans fin, Cauchy a été attirée par l'art qui donnait à voir ce qu'elle avait fini par reconnaître comme l'essence de la condition humaine. Et donc, dans la série de « Je vous tisse un linceul », un certain nombre de compositions archétypales révèlent des inspirations, conscientes ou non, de l'art religieux traditionnel de l'Europe du Nord. Art qu'elle connaissait parfaitement puisqu'elle l'avait étudié lorsqu'elle était en Suisse.
Tout à fait.
Au niveau de sa technique, elle a, durant les 30 années pendant lesquelles elle a fait des milliers de dessins, on a pu voir le processus de la tisserande dans les fonds qui entourent les figures. Et là, regardez bien les images sur le site. Leurs lignes semble parfois varier entre une gestuelle légère et un maillage dense qui crée une image de tissage. Et on voit bien ce linceul. La technique picturale de l'ordre et du chaos figurée par l'uniformité des traits pour la relation figure-fond laisse apparaître la figure comme consumée par l'énergie de l'environnement. Cette technique a été reproduite dans de nombreux dessins pour traduire l'épuisement à la fois physique et psychologique du corps et de l'esprit poussé au-delà des limites du supportable. À partir des années 1990, sa santé vacille et elle a besoin d'être hospitalisée ou de médicaments pour apaiser l'intensité écrasante des symptômes post-traumatiques qu'elle subissait. Et ça, c'est le prix qu'elle paye de son internement, de son vécu dans les camps. Son intention était de rendre hommage aux personnes qu'elle avait connues et perdues durant la Shoah et qui avaient pris sa source dans les actes atroces auxquels elle ne pouvait plus échapper. Et dans « Je vous tisse un linceul » et « L'homme debout », elle a transformé l'horreur et la perte en art par sa détermination, sa compassion, sa spiritualité, sa créativité et sa virtuosité artistique. Enfant sensible et douée, elle a survécu à deux camps de concentration, perdu sa famille alors qu'elle était trop jeune pour comprendre comment et pourquoi, et par la force de la volonté, a travaillé toute sa vie à essayer de contrebalancer les brûlantes injustices dont elle témoignait et qu'elle vivait. Par son art et son enseignement, elle a réussi probablement beaucoup plus qu'elle ne le pensait, avec plus de 15 000 œuvres d'art accomplies, confirmant et transcendant le cauchemar de sa vie et de sculpture et en honorant ses victimes.
Alors on a parlé de toute son œuvre, Judith, des tapisseries mais aussi des dessins, etc. Où est-ce qu'on peut voir ses œuvres ?
Alors on peut voir ses œuvres un petit peu partout, en France, aux USA. En France, on peut les voir à Bègle, qui est un musée, justement...
c'est un musée d'art brut.
D'art brut, oui.
Alors, est-ce qu'on doit dire que sa production relève de l'art brut ?
Alors, justement, c'est une erreur qu'a fait Buffet. Il a connu donc le travail de Rosemary Cauchy, mais on sait qu'effectivement, l'art brut, tel qu'il est défini par Buffet, ce sont des dessins, des peintures qui sont faites par des personnes qui n'ont aucune technique et qui vont spontanément se mettre à dessiner. Ce qui n'est pas le cas de Rosemary, puisque effectivement, elle a été dans des cours et des écoles d'art et donc elle a appris les techniques du dessin. Mais je pense que ce qui a pu tromper Buffet la concernant, c'est que c'est son travail qui est complètement obsessionnel. Comme beaucoup, on peut trouver l'art brut, en particulier dans des endroits où se trouvent des aliénés qui ont ce genre d'atelier et qui spontanément vont dessiner et font des choses remarquables d'ailleurs.
Oui, on a même parlé de l'art fou.
Absolument.
De l'art des fous plutôt.
On parle de l'art brut, de l'art singulier,
oui,
de l'art des fous.
Mais pourtant, Dubuffet, même s'il s'est trompé, il a quand même beaucoup aidé parce qu'elle avait montré ses dessins et on lui avait dit non, ne continue pas, les gens n'aimeront pas. Et Dubuffet, par contre, lui a dit il faut continuer, il faut sortir ce que tu as en toi. Et
elle l'a fait, mais elle a dit aussi que si elle ne l'avait pas fait, elle serait morte bien
exactement,
plus tôt.
Exactement. Voilà. Alors à Bègle.
À Bègle, donc ça c'est à Bègle. Il y a aussi des dessins à Lausanne, et là encore dans un musée d'art brut. Il y a des dessins qui sont évidemment à Croton-sur-Hudson, aux USA, il y en a plusieurs. Elle a quand même été... alors ce sont ces tapisseries qui ont été au MoMA.
Ah oui.
Donc c'est pas les dessins, mais au MoMA on trouve des tapisseries. Et puis il y a une partie, une seule sculpture, mais beaucoup de ces dessins qui sont à Yad Vashem. Voilà.
Alors je me pose une question. Que va faire l'humanité de son témoignage ?
Je sais pas, mais. Moi, à force de côtoyer ses œuvres, j'ai la chance d'en connaître beaucoup, d'en avoir quelques-unes, que je vais d'ailleurs remettre à Yad Vashem.
Il faut dire aussi, c'est vrai que à Yad Vashem, il y a aussi déjà des œuvres d'elle.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et toi, tu vas en donner encore.
Je vais encore en donner. Mmh. Il faut savoir aussi que toutes les œuvres qu'a fait de ses dessins en particulier, elle ne les vendait pas. Elle les donnait. Donc, ça n'a pas une valeur marchande. C'est vraiment la mémoire. C'est la mémoire de la Shoah.
D'ailleurs, à un moment donné, elle dit qu'elle a côtoyé un petit peu les galeries, mais elle s'est dit, c'est pas du tout mon monde, je me retire de là. C'était pas du tout sa façon de faire. Là.
Non, non. Elle a vendu, évidemment, beaucoup pour ses tapisseries. Tout son travail qui était un travail purement artistique et non pas ce travail sur la mémoire de la Shoah.
Oui.
Et tu me posais la question, que va faire l'humanité de son témoignage? Et je te répondais, je ne sais pas. Mais en revanche, elle me fait penser au livre d'André Schwarzbart dans Le Dernier des Justes, où il dit, à un moment donné, c'est à la fin du livre, il dit « Ainsi donc, cette histoire ne s'achèvera pas sur quelques tombes à visiter en souvenir, car la fumée qui sort des crématoires obéit tout comme une autre aux lois physiques. Les particules s'assemblent et se dispersent au vent qui les pousse. Le seul pèlerinage serait de regarder parfois un ciel d'orage avec mélancolie ou ses dessins. Et puis, parfois, il dit, il est vrai, le cœur veut crever de chagrin, mais souvent aussi, le soir de préférence, je ne puis m'empêcher de penser qu'Ernie Lévy, mort 6 millions de fois, est encore vivant quelque part, je ne sais où. Hier, comme je tremblais de désespoir au milieu de la rue, cloué au sol, une goutte de pitié tomba d'en haut sur mon visage. Mais il n'y avait nul souffle dans l'air, aucun nuage dans le ciel. Il n'y avait qu'une présence. Et toute l'œuvre de Rosemary Cauchy me rappelle ces quelques lignes.
Ah, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Tu as choisi quelque chose très très bien. Bravo. Alors, j'ai encore... il nous reste un petit peu de temps, il nous reste 10 minutes. Une question à laquelle je ne sais pas si on peut vraiment répondre. Elle a dit, elle a répété dans ses écrits, « Je travaille pour la justice ». Est-ce que elle a réussi? Est-ce qu'il y a une justice?
Je vais avoir beaucoup de mal à répondre à cette question. Je ne sais pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que elle a rendu justice. Toute son œuvre a rendu justice. Ça, j'en suis certaine. Maintenant, comment l'humanité va faire de ça, je ne sais pas. C'est difficile à dire.
C'est très très dur. C'est une question. Enfin, je sais pas s'il y a eu vraiment une réponse.
Moi
et
non
en
plus.
Particulier quand on regarde les événements aujourd'hui et ce qui
ça.
Se passe un peu dans le monde, on se pose la question. Est-ce qu'il y a eu une justice? Je veux dire même par rapport à la Shoah et par rapport à ce qu'il en reste aujourd'hui, ce qu'on entend.
Oui.
Il y a encore des néo-nazis, il y a encore des... Alors.
Mais moi, à la limite, je me pose la question, est-ce qu'on peut croire en l'humanité?
Oh là là, quelle question terrible! Quelle question terrible!
Oui, voilà.
Bon, je crois qu'on va conclure. On va finir un petit peu plus tôt, c'est pas grave. C'est un travail, ce travail de Rosemary Cauchy. Je crois que si on passe à Bègle, il faut aller voir. Est-ce qu'on peut aussi avoir accès aux livres que tu m'as passés? Est-ce qu'on peut les acheter? On les trouve encore en librairie?
Alors, ces livres, on les trouve aux USA.
Oui.
On peut les trouver en librairie et je te donnerai les références. On pourra les mettre sur le site Judaïsme Pluriel. Mmh. On peut le commander directement à Louis Pelosi, mais on le trouve là-bas. Il est au prix de $80.
D'accord.
Voilà. Si ça. Oui, ou ouais. Qu'on passe par moi, mais.
D'accord.
Accessoirement,
ben on mettra ça, voilà.
Si on veut ce livre-là, qui est écrit en français et en anglais.
J'étais en train de penser à une chose, on l'a pas dit tout à l'heure, mais puisqu'on a encore quelques minutes, on peut encore en parler. On a dit qu'elle a très mal vécu le fait qu'on nie son expérience. Et alors peut-être qu'on pourrait évoquer cette histoire où elle a retrouvé son frère. Ah oui. Dire d'abord comment elle a su qu'elle avait un frère, parce qu'elle l'avait jamais vu. Et quand elle a retrouvé, qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, alors d'abord, sa maman, qui meurt à 35 ans, a servi les nazis, se sont servis d'elle comme prostituée. Et cette femme a attrapé la syphilis et elle meurt à 35 ans de syphilis. Mais avant, elle a donné naissance à un fils. Et elle le dit à Rosemary qu'elle a un frère. Rosemary va chercher son frère pendant très très longtemps, avec peu de résultats au début, et enfin elle finit par le retrouver. Et leur rencontre est assez difficile. C'est un adulte, et lui, il nie.
Il est marié, je crois aussi.
Il est marié, oui. Mm-hmm. Et il nie complètement cette histoire des camps. Il ne veut surtout rien ne savoir, il ne veut rien entendre. Mm-hmm. Peut-être le fait d'être le fruit de sa naissance d'un nazi, c'est peut-être très lourd à porter pour lui.
Oui.
Le fait aussi qu'il n'a pas connu sa mère, hein, oui. Puisque sa mère meurt si jeune. En tout cas, il ne veut rien savoir. Et il dit à Rosemary que tout ça n'est pas vrai.
Oui.
Et elle rajoute « Où j'avais un frère, où j'oubliais tout ce que je savais ». Et j'allais mourir. Donc, elle préfère parler. Puis, elle avait fait une promesse à son grand-père.
Oui, tout à fait.
Et ça, elle ne l'a jamais oublié. Mm-hmm. Même si elle y a répondu tardivement, mais elle y répond.
Alors, un des arguments que son frère a utilisé pour lui dire, pour nier la chose, c'est « Tu as vécu 3 ans seulement et tu avais de 4 ans à 7 ans. 3 ans dans ces camps. Que tu dis, tu ne peux pas avoir gardé autant de souvenirs alors que maintenant tu as 50 ans quand tu fais ces dessins. Alors là, c'est une question qu'on peut se poser. C'est vrai, 3 ans, c'est pas beaucoup. Mais 3 ans,
quelles images.
Quelles images.
Elle a vécu des choses absolument terribles. Et comment on les oublie? D'ailleurs, elle les enfuit suffisamment longtemps dans sa mémoire.
Oui, mais un jour, parce qu'on lui disait qu'il ne faut pas en parler.
Il ne faut pas en parler. Et ça ressurgit. Hein, ça ressurgit brutalement. Et ça devient pratiquement obsessionnel. Et elle est traitée. Quand on dit qu'elle est hospitalisée, elle est obligée d'aller de temps en temps dans des hôpitaux psychiatriques. Donc, ce n'est pas rien. Mais en revanche, quand on dit que 3 ans, etc., elle devait bénéficier, la preuve est qu'elle est bien répertoriée comme ayant été dans des camps, sauf qu'on ne lui a pas donné sa pension puisque les sœurs lui ont changé son nom de famille.
Oui.
Et du coup, elle était enregistrée comme Cauchy et non pas comme Vertov. Mmh. Et on ne lui a même pas donné ce qu'on aurait dû lui donner comme argent. Mmh. Mais elle était bien enregistrée dans ces fameux dossiers que les Allemands, les nazis savaient si bien faire.
Et moi, je reste éberlué, oui, de voir que combien ces images, alors qu'elle était une petite fille, ont marqué toute sa vie. Ça veut dire que le cerveau est imprégné de manière absolument indélébile de tout ce qu'elle a pu voir et ne pas comprendre. D'ailleurs, elle ne comprenait pas tout ce qui se passait à son âge. Et puis, ce cerveau a été resté complètement marqué. Et c'est peut-être un petit peu ça que le frère ne comprenait pas.
C'est évident, mais en même temps, on sait bien qu'il suffit de
nous, on est convaincus.
Cyrulnik l'a suffisamment expliqué. Oui. Nous, on sait qu'elle a été imprégnée de toutes ses horreurs, qu'il y a eu cette période où elle a tenté d'oublier parce qu'on lui a dit qu'il fallait oublier et qu'elle n'avait pas le droit d'en parler. Mm-hmm. Mais tout ça, à un moment donné ou à un autre, s'est remonté et s'est remonté brutalement. Donc, on parlait de justice, elle a rendu justice, mais à quel prix?
À quel prix? C'est carrément un sacrifice de tout, puisqu'elle n'a vécu que pour ça, que pour rendre justice.
Absolument. Mais en même temps, peut-être qu'elle serait morte avant.
Mmh. Oui, comme elle a dit. Voilà, on va terminer. Chers amis, bonsoir, à la semaine prochaine. Merci Judith de nous avoir parlé de Rosemary Cauchy. Merci à Olivier qui nous a suivis le long de cette émission. Et donc, à la semaine prochaine. Bonsoir.
Au revoir.
C'était Judaïsme Pluriel, chaque mercredi de 20h à 21h. Merci, bonsoir et à la semaine prochaine.